Jusqu'à 14h, Serge Sauvion vous raconte des histoires policières. C'est Crime Story et l'épisode du jour, 10 dollars de trop.
Le commissaire au compte me dit soudain : Écoutez, monsieur Webster, nous ne pouvons pas accepter cela.
Mais accepter quoi, monsieur Stuart ?
Vous avez trouvé un déficit ? Ce n'est pas cela, monsieur Webster. C'est même l'inverse, voyez-vous. Votre banque a 10 dollars de trop en coffre.
Oh, évidemment, ça n'est pas très régulier, monsieur Stuart. Mais vous m'avez fait peur.
Je préfère cela. Vous ne pouvez pas écarter ce problème aussi légèrement, monsieur Webster. Vous savez très bien que vos comptes doivent tomber juste au centime près. Même pas au dollar, au centime près.
Ben, voyons, monsieur Stuart, il ne s'agit que de
10 dollars de trop, monsieur Webster. Je vais être obligé de faire un rapport à la commission.
Mais si vous faites un rapport, vous savez ce que ça veut dire, monsieur Stuart. Il y aura une enquête.
Avez-vous quelque chose à cacher, monsieur Webster ?
Mais bien sûr que non, monsieur Stuart. Nos livres sont parfaitement en ordre.
Mais tellement en ordre que vous vous retrouvez avec 10 dollars de trop dans vos réserves en liquide. Il faut regarder les choses en face, monsieur Webster. Quelqu'un a déposé de l'argent dans votre coffre et peut-être
non. Non, impossible, monsieur Stuart. Monsieur Barger et madame White travaillent avec moi depuis des années. J'ai en eux une confiance aveugle.
Sont-ils vos seuls employés, monsieur Webster ?
Oui, monsieur Stuart. Nous ne sommes qu'une petite banque dans une petite ville.
Et ils ont tous les deux accès au coffre ?
Oui, je le reconnais, mais je ne peux pas les imaginer, l'un ou l'autre, agissant de manière malhonnête.
Néanmoins, l'un d'eux est coupable, monsieur Webster.
Monsieur Stuart, s'il vous plaît, êtes-vous absolument certain de ne pas vous être trompé ?
Je ne me trompe jamais, monsieur Webster.
Monsieur Stuart, ça fait 10 ans que vous inspectez mes livres de compte. C'est bien la première fois que vous trouvez quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas ? Écoutez, au nom de ces 10 ans de rigueur, ne pourriez-vous inspecter à nouveau mes livres demain, uniquement pour avoir une certitude absolue avant d'envoyer votre rapport ? S'il vous plaît.
Bien, d'accord, monsieur Webster. Je reviendrai demain matin à 9h très précise.
Monsieur Stuart parti, je sors de mon bureau pour me rendre dans les locaux de la banque. L'heure de la fermeture est passée, mais Monsieur Barger et Madame White sont toujours à leur poste, derrière leur comptoir. Mes bons amis, savez-vous ce que Monsieur Stuart a découvert ? Il y a 10 dollars de trop. Vous vous rendez compte de tout ce que cela signifie ? Il va y avoir une enquête. Le bruit va se répandre que nous tenons nos livres de compte de façon négligente et je ne serais pas étonné que tous nos clients se précipitent à la banque pour retirer leurs fonds. J'avoue que je n'arrive pas à comprendre. Voilà plus de 20 ans que vous travaillez tous les deux avec moi. Je pensais que nous ne nous contentions pas d'avoir des rapports d'employeur à employé. Je pensais que nous étions des amis. Je ne sais pas lequel d'entre vous est responsable, ni quelles sont les circonstances qui vous ont conduit à agir ainsi. Mais après tout, puisqu'il ne s'agit que de 10 dollars, il me semble que nous pouvons facilement rectifier cette erreur. Heureusement, j'ai réussi à persuader M. Stuart de revenir demain effectuer une nouvelle vérification. Alors maintenant, je vais tout simplement aller retirer du coffre un billet de 10 dollars. Ainsi, nos liquidités seront au niveau voulu. Ce n'est pas véritablement du vol, n'est-ce pas ? Je ferai don de ces 10 dollars à la Croix-Rouge ou à quelque œuvre de charité. Henry Barger est un petit homme mince et voûté, de quelques années plus âgé que Madame White. C'est lui qui prend la parole.
Non, Monsieur Webster, c'est pas possible. Je viens de fermer la salle des coffres et de mettre la minuterie en marche. La porte ne se rouvrira pas avant 9h demain matin. Nous pourrions peut-être retirer les 10 dollars demain matin.
Non, Henry. Stuart m'a assuré qu'il sera là à 9h précises et je ne l'ai jamais vu en retard. Je suis chez moi dans la soirée quand ma sonnette résonne. Je vais ouvrir. C'est Henry Barger.
Pourrais-je vous dire un petit mot, Monsieur Webster ?
Mais bien sûr, Henry, entrez. Nous passons dans la salle de séjour. Barger s'assied timidement sur le bord d'un fauteuil.
Monsieur Webster, j'ai longuement réfléchi. Je voudrais pas que vous pensiez que Madame White puisse être responsable des difficultés de la banque. Monsieur Webster, c'est moi qui ai mis les 10 dollars en trop.
Vous ? Mais Henry, comment avez-vous pu faire une chose pareille ?
Je ne l'ai pas fait exprès, Monsieur Webster. C'était, comment dire, par accident.
Et comment cela s'est-il produit, Henry ?
Les courses, Monsieur Webster.
Les courses ?
Oui, je connais un bookmaker à Clinton, Monsieur Webster. C'est une boîte assez importante, avec une douzaine d'employés, si c'est pas plus. Tout le temps au téléphone. Ils prennent des paris de partout, même de New York et de Philadelphie.
Vous avez joué aux courses, Henry ?
Oui, Monsieur Webster. Comprenez, il y avait les factures de l'hôpital et j'avais du mal à rembourser mon prêt. Et je ne gagne vraiment pas beaucoup, Monsieur Webster.
Je le regrette, Henry, mais enfin, vous savez que nous sommes une petite banque.
Oh, je ne me plains pas, Monsieur Webster. Je connais la situation.
Enfin, Henry, vous savez bien qu'on ne peut pas gagner de l'argent aux courses de chevaux, voyons.
Oui, c'est vrai, Monsieur Webster. D'abord, ça a été 2 dollars, et puis 5, et puis 10. Bon, je gagnais de temps en temps, bien sûr, mais je ne faisais que m'enfoncer davantage chaque jour.
Et où preniez-vous l'argent, Henry ?
À la banque, Monsieur Webster. Après avoir pris environ 2000 dollars, je me suis rendu compte que je ne serais jamais capable de rembourser la banque, à moins de faire un coup fumant, comme on dit. Alors, j'ai risqué un pari de 2000 dollars sur un cheval appelé Black Jack.
Et vous avez perdu, bien évidemment. C'est toujours comme...
Non, Monsieur Webster, non. Black Jack est arrivé à 10 contre 1. Alors, j'ai pu régler les factures de l'hôpital. J'ai pu rembourser mon prêt dans sa totalité. Mais j'ai remis dans le coffre l'argent que j'avais emprunté. Je suppose que j'ai dû remettre 10 dollars de trop. Je suppose que vous allez me renvoyer, Monsieur Webster.
Quelle décision va prendre M. Webster ? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. M. Stuart, le commissaire aux comptes chargé de vérifier les avoirs de la banque que dirige M. Webster, vient de découvrir que l'agence détient dans ses coffres 10 dollars de trop. M. Webster a obtenu, grâce aux liens d'estime qui les unissent, que M. Stuart procède le lendemain matin à une nouvelle vérification avant d'établir et d'envoyer son rapport à la haute direction. Mais le soir même, de retour chez lui, Webster reçoit la visite d'un de ses deux employés, Henry Barger, qui lui avoue avoir puisé jusqu'à 2000 dollars dans les caisses de la banque pour jouer aux courses. Le vieil homme pensait avoir remboursé intégralement cette somme, mais sans doute a-t-il remis un billet de 10 dollars en trop. Quelle va être la réaction de M. Webster après cette confession ? À quoi bon renvoyer Henry Barger maintenant ? Il a remboursé la banque. Inquiet, il me suit du regard tandis que j'arpente nerveusement la pièce. Henry, il faut que d'une façon ou d'une autre, nous parvenions dans la chambre au coffre avant Stuart. Finalement, une idée me vient. J'y suis. Il suffit que nous fassions en sorte que Stuart ne soit pas à la banque au moment où le coffre s'ouvrira.
Oui, Monsieur Webster, mais comment ?
Dites-moi, Henri, quand il vient en ville, il descend toujours à l'hôtel des Armes. Ça n'est pas très loin de la banque. Je sais qu'il vient toujours à pied.
Oui, monsieur Webster.
Eh bien, je vais me trouver passer par là par hasard et je le prendrai dans ma voiture. Je me débrouillerai en chemin pour tomber en panne, de façon à ne pouvoir être à la banque à 9 heures précises.
Oh oui, monsieur Webster. Et moi, j'y serai quand la salle des coffres s'ouvrira. Je me précipiterai pour retirer les 10 dollars.
Parfait, Henri. À présent, promettez-moi une chose. C'est la dernière fois que vous puisez de l'argent dans la banque.
Oh oui, croyez-moi, monsieur Webster, la leçon à porter, comme on dit. Ça ne paye pas de jouer aux courses.
Le lendemain matin, j'achève de petit déjeuner au bar en bas de chez moi quand Madame White paraît sur le seuil. D'un air hésitant, elle s'approche de ma table.
Monsieur Webster, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit parce que je me faisais vraiment trop de soucis.
Madame White, je crois que nous pouvons cesser de nous tracasser à propos de tout ça.
Non, je ne peux pas me défiler, monsieur Webster. Je ne peux pas vous laisser, ne serait-ce même qu'envisager que ce cher Henri puisse être critiqué. Monsieur Webster, c'est moi qui ai mis les 10 dollars supplémentaires dans le coffre. Vous comprenez, monsieur Webster, j'ai eu 6 enfants. J'ai 8 adorables petits-enfants. Et mon Dieu, les temps ne sont pas aussi faciles qu'ils pourraient l'être, n'est-ce pas? Chacun a besoin que je l'aide de temps en temps. Aucun d'eux n'avait suffisamment de références pour obtenir un prêt de la banque. Alors, parfois, j'ai essayé de leur faciliter un peu la vie, vous comprenez?
Combien avez-vous pris, madame White?
Ce sont tous des gens très bien, monsieur Webster, mes enfants. Courageux, méritants, étant donné que je travaille dans une banque où il y a un tas d'argent qui ne reste à rien faire.
Combien avez-vous pris, madame White?
2 500 dollars et 98 cents.
J'éprouve momentanément une certaine curiosité quant aux 98 cents, mais je l'écarte. Madame White, vous avez fait une grosse bêtise.
Oh oui, monsieur Webster. Comprenez, 20 dollars par-ci, 20 dollars par-là, et tout cela s'est additionné.
Et bien entendu, madame White, aucun de vos enfants ne vous a remboursé.
Ah, mais si, monsieur Webster. Chacun d'eux est jusqu'au dernier centime. Mais je croyais avoir scrupuleusement noté ce que je prenais. D'une façon ou d'une autre, un billet de 10 dollars a dû s'ajouter aux autres, voyez-vous. Monsieur Webster, j'endosse la pleine responsabilité de ce que j'ai fait. Je suis prête à payer ma faute. Je ne regrette rien. J'ai eu une vie bien remplie. J'espère seulement qu'on autorisera mes petits-enfants à venir me voir en prison.
Je ne pense pas qu'on en arrive là, madame White.
Vous allez me renvoyer, monsieur Webster. J'ai perdu votre confiance.
Non, madame White. J'ai déjà établi un précédent.
Oh, monsieur Webster. Vous seriez étonné d'apprendre tout le bien qu'a fait cet argent, au lieu de rester à moisir dans ce vieux coffre. Élise a pu acheter la machine à laver dont elle avait tant besoin avec ses 3 petits-enfants. Et Marianne a pu s'acheter une robe pour la fête de l'école. Voyez-vous, sa vie aurait été absolument gâchée si elle n'avait pu trouver les 45 dollars 98 cents.
Madame White, je crois que nous allons pouvoir tout arranger.
Oh, vous le pensez vraiment, monsieur Webster?
Oui, madame White. Je vais prendre monsieur Stuart dans ma voiture et sur le chemin de la banque, j'aurai quelques ennuis mécaniques. Et pendant ce temps-là, Henri sera dans la salle des coffres au moment où elle s'ouvrira, de façon à épurer la situation.
Oh, quelle idée brillante, monsieur Webster. Mais vous feriez bien de vous dépêcher.
Mais j'ai tout mon temps, madame White. Il n'est que 8 heures et un quart. Madame White consulte la petite montre en or qu'elle a à son poignet et jette un coup d'œil par-dessus mon épaule à l'horloge murale.
Ah, je crois que votre montre retarde, monsieur Webster. D'après la pendule qui est là, et d'après ma propre montre, il est 9 heures moins 10.
Vite, Madame White. On peut encore tout réussir. Nous sortons en hâte du restaurant pour foncer vers ma voiture garée à proximité. Là, je m'arrête pétrifié au moment de glisser ma clé dans la serrure et je tends le trousseau de clés à Madame White. 30 secondes s'écoulent avant que je ne puisse parler. Madame White, voulez-vous s'il vous plaît prendre place dans la voiture? Le pneu avant est crevé, je dois changer la roue. Nous arrivons à la banque à 9h10. Le visage d'Henry Barger est livide.
Monsieur Stuart est arrivé avant l'ouverture du coffre. Que s'est-il passé, Monsieur Webster?
Je vous raconterai, Henry. Nous nous asseyons tous les trois pour attendre. Les minutes s'écoulent lentement. Le temps nous paraît s'être immobilisé. Enfin, à 10h30, Stuart ressort de la salle des coffres. Son visage est rouge de confusion.
Ça aurait pu arriver à n'importe qui, n'est-ce pas?
Pardon, quoi donc, Monsieur Stuart? Il agite la liasse de billets de 10 dollars qu'il tient à la main.
Dieu sait comment un de ces billets s'est plié en deux, si bien que lorsque j'ai vérifié cette liasse hier, j'ai compté deux fois le même billet. Deux fois, vous imaginez? Si j'avais compté la liasse de l'autre côté, il vous aurait manqué 10 dollars.
Henry Barger, Madame White et moi-même regardons éperdus Stuart avec son visage cramoisi.
Ah, ça aurait pu arriver à n'importe qui, n'est-ce pas?
Ce qui signifie, Monsieur Stuart, que nos comptes...
Sont exacts, Monsieur Webster, au centime près.
À midi, alors que je déjeune comme tous les jours à l'Étoile d'Or, je vois arriver vers moi ce monsieur Sprague, que je connais bien et qui habitait New York autrefois. Il sort un bloc et un crayon de sa poche.
Bonjour, monsieur Webster. Alors, quel est votre cheval aujourd'hui?
Aucun, monsieur Sprague. Je ne jouerai plus aux courses.
Comment? Vous abandonnez maintenant, après avoir gagné le paquet avec Black Jack, 10 000 dollars, c'est bien ça?
C'est bien ça, monsieur Sprague. Mais j'abandonne tout de même. Et je me tiendrai à cette décision. Comme dit Henry, la leçon à porter. C'est dangereux de jouer aux courses. Et puis, j'ai eu trop peur. Car pendant un moment, comment ne pas penser que c'était moi qui avais mis un billet de trop dans le coffre ?